Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour après la petite pause musicale. On a au menu une petite chronique par moi-même sur, en fait, une petite loupe en fait sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier ministre d'Israël, en fait, actuellement. C'est lui, notamment, qui dirige les forces armées contre Gaza. Benjamin Netanyahu, c'est le président du Likoud, le Parti national conservateur. Likoud, c'est vraiment juste le nom de son parti. Ça a été le premier ministre d'Israël de 1996 à 1999, de 2009 à 2021 et de 2022 à actuellement. C'est lui, notamment, qui a géré, en fait, les guerres de Gaza de 2012 et de 2014. Donc, c'est pas sa première guerre, là. Techniquement, en ce moment, c'est sa troisième guerre avec Gaza. Il a passé 16 ans au total à la tête du gouvernement, dont 12 années consécutives. Il est actuellement poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Oui, c'est ça. Donc, poursuivi pour corruption, fraude, abus de confiance. La procureure générale, justement, de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, annonce en mars 2021 une enquête pour crimes de guerre commis par Israël et le Hamas entre 2014 et 2021. Je suis en train de faire un petit peu son CV à Benjamin Netanyahu, là, pour ceux qui se demandent. Là. Juste, je veux vous peindre, en fait, un petit peu le personnage pour dire qui est à la tête, justement, d'Israël, qui est un pays qui aurait, en fait, la bombe atomique, un des pays les plus puissants du Moyen-Orient. On continue avec, en 2022, il a formé le parti le plus à droite de l'histoire, en fait, d'Israël, notamment avec des partis d'extrême droite et des ultra-orthodoxes, et notamment, simplement, 5 femmes qui y siègent. Si je me souviens bien, on parle d'un peu plus de 66 sièges, si je me souviens bien, là, pour qu'il y ait le pouvoir, justement, là, à la Cour. Ensuite de ça, Cour suprême invalide en janvier 2023 la nomination du ministre de l'Intérieur et de la Santé, qui était le réel numéro 2, en fait, du gouvernement, à cause de condamnations de corruption et de fraude. Donc, il était condamné, en fait, pour corruption et fraude. Et cet homme, ministre de l'Intérieur, a justement été refusé par la Cour suprême. Donc, je mets tout ça je vous parle un petit peu le personnage. Il a notamment aussi mis en place le projet de réforme judiciaire qui permettant à la Knesset, là je sais vraiment pas si je le prononce adéquatement, mais Knesset en fait c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale pour Israël. Donc il a mis en place en fait un projet de réforme judiciaire permettant à la Knesset de déroger aux décisions de la Cour suprême. Il y a eu plusieurs manifestations, notamment en réponse de ce projet de réforme judiciaire-là. Et Benjamin Netanyahu a notamment limogé son ministre de la Défense qui a critiqué cette réforme-là. Donc, on refait une petite image, là, en fait. Donc, Benjamin Netanyahu, qui est accusé de corruption, fraude et autres, a mis en place un projet de réforme judiciaire suite à ce que la Cour suprême a invalidé la nomination de son bon ami, le ministre de l'Intérieur, dû à des condamnations de corruption et fraude. Et il essaie de justement que les membres, en gros les députés, de leur Assemblée nationale, puissent déroger aux décisions de la Cour suprême. Donc là, vous voyez un petit peu le personnage qui est Benjamin Netanyahu. Et pourtant, cet homme est au pouvoir depuis, c'est ça, un peu plus de 16 ans au total, 12 ans de suite. Et c'est un président, en fait, historiquement impopulaire qui est au pouvoir jusqu'en 2026 et Israël ne peut rien y faire. Rien y faire c'est pas exactement la réalité, c'est simplement que les recours institutionnels sont très faibles. On parle d'un taux, un taux d'approbation qui tourne autour de 15% pour le président Benjamin Netanyahu. Donc, simplement 15% de la population d'Israël supporterait, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai dit président, mais c'est le premier ministre. Mes excuses. En fait, c'est C'est ça. Donc, simplement 15% de la population endosserait ce premier ministre-là. Notamment à cause de ses histoires de corruption et fraude, la mise en place de sa réforme judiciaire. Puis, c'est ça, il est au pouvoir jusqu'en 2026. On essaie de savoir, est-ce que c'est possible, en fait, qu'il reste au pouvoir? Moi, selon moi, il va clairement rester au pouvoir. Les seules façons, en fait, qu'il perde le pouvoir, Benjamin Netanyahu, ça serait qu'il y aurait un échec, en fait, de la coalition. Donc, on parle à peu près de la défection de seulement 5 membres qui feraient échouer le gouvernement et qui déclencheraient des élections dans 3 mois. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les gens, justement, les partis, les petits partis, qui ont très peu de sièges. On parle notamment des ultra-orthodoxes et les partis d'extrême droite ont accès en fait au pouvoir grâce à, justement au gouvernement de Netanyahu et puis ils sont capables de justement pousser certaines de leurs réformes au gouvernement avec un échange en fait de leur soutien pour maintenir le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Donc il pourrait avoir un échec de la coalition, j'y crois peu, parce que justement, les partis d'extrême droite qui laisseraient tomber, en fait, ont une valeur à rester, en fait, dans ce gouvernement-là. Ensuite de ça, donc, en fait, c'est justement ces partis ultra-orthodoxes ont plusieurs revendications et qui forcent, en fait, la main de Benjamin Netanyahu, notamment des partis qui refuseraient, en fait, un État palestinien et ils promouvaient, en fait, le rétablissement de civils Israël dans Gaza après la guerre. Donc, ça, c'est les partis, justement, qui permettent l'existence, en fait, du gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahu. Et ces partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite forcerait en fait la mise en place d'un... En fait, la destruction de l'État palestinien et plutôt la promotion en fait de rétablissement de colons en fait israéliens dans la bande de Gaza. Mais je ne sais pas si vous avez vu, là, mes chers collègues, mais dernièrement, il y a plusieurs justement petites images qu'on a vues passer que la bande de Gaza serait inhabitable en fait pour comme 75 ans dû à la reconstruction nécessaire, dû à la... à la pollution des eaux due à soit des tactiques israéliennes ou j'essaie de pas confirmer ou infirmer quoi que ce soit, mais essayer de rester le plus neutre possible, mais que la bande de Gaza en fait serait comme inhabitable, donc je sais pas à quel point on peut vraiment mettre en place des colons israéliens dans la bande de Gaza, ou je sais pas si vous voyez ça réaliste là. Pensez-vous que c'est ce qui va arriver à la fin de la journée?
Alors ça dépend de qu'est-ce qu'on parle. La bande de Gaza est inhabitable Tant que l'armée israélienne agira comme elle agit en ce moment, oui, ça sera inhabitable pour la population. Ensuite, est-ce qu'elle est inhabitable après? Je sais pas. Moi, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que certains investisseurs, certains industriels israéliens ont déjà eux fait des plans sur certains territoires palestiniens. J'ai pas le nom de cette entreprise parce que là j'y pense quand tu m'en parles là, mais il y a des plans de certaines entreprises de certaines agences immobilières israéliennes qui ont fait déjà des plans de bâtiments, de maisons et d'immeubles qu'ils comptent louer pour des futures colonies sur les plages de Gaza. Donc voilà, on a déjà des plans qu'on peut retrouver hein, sur Internet, sur de certaines agences immobilières israéliennes qui déjà spéculent sur le marché, un potentiel futur marché immobilier. Donc c'est intéressant. On voit effectivement qu'il y a vraiment une réappropriation, une colonisation des ouais non je suis fatigué ce matin, excusez-moi, une réappropriation, une colonisation, j'ai du mal à dire le terme, une colonisation des terres
donc, palestiniennes. S'il vous plaît, lancez pas des rushs sur Renzo, il s'est simplement fourvoyé dans ses mots. Hein.
Ouais, je suis fatigué. Non, tout le monde connaît mon point de vue sur cette situation. Non. Oui, on voit donc que contrairement à ce qui peut être dit hein, par le gouvernement israélien, non, il y a réellement une intention de coloniser des territoires. Il y a réellement une intention politique, hein, d'ailleurs.
Non, oui, c'est clair.
Mon collègue parlait de Netanyahou. On peut parler de tout un tas de plans, en fait, qui ont eu lieu depuis que Netanyahou est au pouvoir. Tout un tas de plans qui ont eu lieu pour s'accaparer des terres palestiniennes, notamment en 2020, où il y avait jusqu'à 30% de la vallée jordanienne et palestinienne qui allait être accaparée, qui ont été accaparées depuis par Israël. Il y a le fameux plan de la paix main à main avec Donald Trump qui avait été signé, pareil, qui avait fait que tout un tas de territoires palestiniens avaient été colonisés. Et de plus, Netanyahou laisse des colons prendre et grappiller des territoires palestiniens, laisse faire ça en toute impunité, et même est complice de cela. Donc oui, on voit qu'il y a clairement un plan de colonisation de ce territoire-là. Voilà, c'est d'ailleurs, voilà, quand on voit en ce moment ce qui se passe autour du génocide qui a lieu en ce moment, autour des bombardements qui a lieu en ce moment. Moi, je sais pas, ta question, c'est est-ce que ça sera inhabitable ou non. Moi, je pense que de toute façon, ils vont
s'arranger pour que ça soit inhabitable pour les Palestiniens.
Exactement ça. Ils s'arrangent pour, en tout cas, ils s'arrangent pour que ces terres-là soient inhabitables pour les Palestiniens. Ils feront tout pour qu'elles soient habitables pour les industriels et pour tout ce dont je parlais tout à l'heure.
Donc là, je vois justement le temps qui avance. Donc j'ai conclu rapidement. Donc c'est ça. Benjamin Netanyahu, en fait, c'est un criminel, tout simplement, accusé de corruption, de fraude et qui tente de justement faire passer une réforme judiciaire pour empêcher que la Cour suprême, en fait, puisse accuser, en fait, c'est que les députés puissent résorber des décisions judiciaires, en fait, de la Cour suprême et qu'ils puissent être un petit peu... J'ai imaginé ça un petit peu comme l'immunité présidentielle, en fait, qu'on parle comme aux États-Unis. Donc, dans la même idée, mais pour les députés de l'Assemblée nationale israélienne, c'est vraiment un premier ministre qui tente de vraiment gouverner son pays d'un bras de fer. Puis, entre vous et moi, ça ressemble... C'est une démocratie, mais ça ressemble beaucoup à une dictature. T'sais, on n'a pas de premier ministre, on n'a pas de président qui dure 16 ans, qui sont pas 16 ans au pouvoir. Là. Ça arrive très peu. On va se dire ça comme ça. Et en fait, justement, que le fait que Benjamin Netanyahu, malgré le fait qu'il y ait simplement 15% d'appui, c'est qu'il y a un... C'est un exemple, en fait, de gouvernement qui a mis des balises insuffisantes, en fait, pour protéger sa démocratie, pour démettre de ses fonctions, par exemple, des premiers ministres, des députés qui ne représentent pas la volonté de sa population. Et c'est vraiment un exemple, je vous dirais, de la proportionnelle, une des proportionnelles les plus pures au monde, qui permet justement à des groupes d'extrême droite, ultra-orthodoxes, qui représentent une fine marge de la population israélienne et qui permettent en fait d'avoir une grande influence au sein du gouvernement en faisant passer justement des certaines résolutions comme par exemple ce qui concerne les prisonniers palestiniens. Donc eux, ils refusent qu'en fait que des prisonniers palestiniens soient échangés avec des otages israéliens. Donc ces groupes-là refusent en fait qu'on transige avec... Je vous avais tout entendu la phrase américaine comme on ne transige pas avec les terroristes ou ces choses-là, mais pour ce groupe-là ultra-orthodoxe, c'est clairement ça. On ne transige pas avec les terroristes palestiniens. C'est pas mes points de vue, c'est vraiment comment eux voient les choses. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas justement aller chercher des Israéliens qui sont en ce moment maintenus en otage par le Hamas. Donc c'est ça, c'était la petite loupe justement sur qu'est-ce qui était... Israël, on se revoit après la pause. Enzo va nous... Il y avait un petit commentaire qu'on va laisser pour après la pause. Et la petite pause publicitaire pour tout le monde.